角色。七月三，七月三，七月三，七月三，七月三，七月三，是得几的话。七月三，七月三，七月三，七月三，七月三，七月三，是得几的话。我可能发缺啥？七月三，七月三，七月三，七月三，七月三，七月三，是得几的话。Ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé, élevé au-dessous des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir.
Nous aurons maintenant les lectures qui seront le support de la prédication. Et en première lecture, je vous propose Ésaïe 55, les versets 6 à 11. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui. À notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé.
La deuxième lecture se trouve dans Luc 2, versets 41 à 50. C'est Jésus qui est à Jérusalem avec ses parents. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'il se trouvait avec les compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
En dernière lecture, c'est le texte de Matthieu 16, 13 à 17 et 21 à 23. Jésus interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qu'est-il d'après eux ?» Ils répondirent « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour les autres, Élie, et pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous ? » leur demanda-t-il. « Que dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. » C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur !» Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. »
Bonjour, chers amis. Vous avez peut-être deviné le thème de notre réflexion ce matin en entendant ces textes. Je ne sais pas quelle impression ces textes vous ont fait. Moi, je les trouve un peu déstabilisants, qui nous laissent supposer des choses un peu en décalage avec notre culture évangélique. Je vais vous donner 3 aspects qui me heurtent, qui m'ont questionné et partagé cette question avec vous. Tout d'abord, cette interpellation du prophète Ésaïe qui exhorte ses compatriotes en disant « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. » Ce qui laisse supposer qu'on peut le trouver, qu'il y a un temps privilégié pour se tourner vers Dieu, ce temps ne se représentera peut-être pas, et au pire, on pourrait se dire que l'accès à la présence de Dieu est limité, non seulement dans le temps, tant qu'on peut le trouver, donc pendant qu'on peut le trouver, mais aussi géographiquement, tant qu'il est proche. La conséquence, c'est que si on a loupé le rendez-vous, alors l'espoir d'une seconde chance, voire de la possibilité de se tourner vers Dieu, devient peut-être aléatoire. à cette première interrogation sur la disponibilité de Dieu, si j'ose dire, j'ai tendance à répondre que oui, oui, il y a un temps limité et un endroit déterminé pour trouver Dieu. Mais attention, ne nous y trompons pas, le temps limité n'est pas de l'ordre de quelques minutes comme le sont nos rendez-vous fugaces que nous trouvons dans nos agendas. La limite du temps donné, c'est au fond la limite de la durée de notre vie consciente, de notre vie capable de prendre des décisions. Elle est limitée. On ne sait pas la durée exacte, mais elle est limitée. Et donc, il y a encore l'endroit, tant qu'il est proche, l'endroit où Dieu est déclaré proche. On pourrait dire que c'est n'importe où sur la planète, puisque Dieu déclare, toujours en Ésaïe, mais au chapitre 66, l'Éternel dit, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Donc, pourquoi cette restriction? Tournez-vous vers Dieu tant qu'il est proche. C'est que nous ne devons pas considérer sa proximité sous l'angle géographique, mais bien sous l'angle de la proximité de notre cœur, des dispositions de nos cœurs qui seules peuvent faire obstacle à la présence de Dieu dans nos vies. Il faut aussi observer que Dieu prévoit des temps privilégiés pour enrôler les humains, comme nous le voyons. Jésus a appelé ses disciples, il ne les appelait pas 50 fois, c'était même assez bref, toi suis-moi, bien suivez-moi, enfin, c'était court et bref, c'était percutant, évidemment c'était Jésus, mais on se rend compte qu'il a trouvé des gens dans des circonstances et il les a enrôlés. Dieu l'a fait avec les anciens, les patriarches, souvenez-vous qu'avec Moïse la discussion a été âpre, au point que Dieu a dû insister parce que Moïse refusait d'être enrôlé. Et je ne sais pas si on me disait « va libérer tel peuple d'un tyran », je ne m'en sentirais pas non plus très capable. Donc Dieu a utilisé des miracles extraordinaires et malgré lesquels Moïse a dit « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras », sous-entendu « pas moi ». En passant, on peut aussi observer que la notion de lieu saint dans la Nouvelle Alliance n'a pas le sens qu'elle avait dans l'ancienne, le tabernacle ou le temple, car tout lieu est saint si Dieu le sanctifie de sa présence. Donc le lieu et l'époque favorable pour trouver Dieu sont à rechercher d'une part dans les dispositions de notre cœur et pas celui de nos voisins, c'est pas par procuration, et d'autre part le temps limité, c'est celui de notre vie terrestre. Pas avant, pas après, parce que je le précise, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et à ce que je sache, on n'est pas adepte de la réincarnation. À l'appui de ces arguments, on pourrait ajouter divers textes, notamment Hébreux chapitre 3, ou Matthieu 26, la parabole des jeunes filles, des 10 jeunes filles, qui vont dans le même sens. Il y a un aujourd'hui de Dieu, un temps favorable, de grâce, certes, prolongé, mais qui prendra fin un jour. Quelles que soient les circonstances de la visitation de Dieu, la réponse dépend des dispositions de notre cœur. Et Roger Sewell l'a bien mis en évidence, je crois que c'est dimanche dernier, dans son message sur les héritages, les dispositions du cœur qui régissent des actions. Et la question est, vais-je faire allégeance, acte de soumission, et de manière délibérée à Dieu? Même si je suis rassuré sur le fait que l'offre d'emploi, entre guillemets, de Dieu est permanente, la durée de ma vie n'est pas permanente. Aussi est-ce indiqué de répondre pendant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire pendant qu'on est en vie. Et demeure une question secrète dans l'intérieur de nos vies, pour quelle raison vais-je faire allégeance à Dieu? On va y revenir. Deuxièmement, un aspect aussi un peu choquant, Dieu affirme que ses pensées ou ses voies, c'est-à-dire, disons, ses projets, ses intentions, sont tellement au-dessus et supérieures aux nôtres qu'elles sont inaccessibles. C'est un peu déprimant, parce que on pourrait en déduire que seule une élite prophétique d'exception peut prétendre au privilège de comprendre la pensée de Dieu, ou les voies de Dieu. Par exemple, les patriarches, les prophètes, Moïse, auxquels Dieu a parlé, on peut presque dire directement, face à face, presque. Mais Dieu a parlé partiellement. La Bible même nous parle, elle ne dit pas tout. Et alors que le commun des mortels, dont je fais partie personnellement, demeure incapable de recevoir, de comprendre, de penser comme Dieu. Et du reste, la déclaration maintes fois répétée que nous avons chantée là tout à l'heure, je ne savais pas quel chant serait choisi, c'est les chantres qu'ils ont choisis, mais là c'était vraiment très très bien choisi. Cette pensée maintes fois répétée, c'est que Dieu est trois fois saint, 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 trois fois séparé. Saint, ça veut dire mis à part, séparé. Trois fois séparé, donc tellement différent qu'on ne peut pas l'approcher ni le connaître sous peine d'en mourir. Oh, j'espère qu'il ne vous échappe pas que ce Dieu si éloigné de nous par sa nature spirituelle et sa triple sainteté, nous l'appelons notre Père. D'où ce sentiment étrange d'avoir affaire à un Dieu très éloigné par sa sainteté et sa toute-puissance, et très proche de nous par sa paternité. Troisième élément, peut-on saisir les voies, les intentions, les projets? Alors nous observons d'une part le récit de la fugue de Jésus à Jérusalem, et d'autre part le dramatique entretien entre Jésus et Pierre. En considérant cela, on se demande si nous avons la faculté de comprendre quelque chose à l'action de Dieu. On comprend toujours après, hein. Après on comprend, mais avant, que va-t-il se passer? Quelle est l'intention de Dieu? On ne comprend pas facilement, même lorsque les choses nous sont explicitement décrites ou communiquées. Le niveau de nos pensées ordinaires paraît tellement bas, tellement ratère, on peut le dire, qu'on peut se demander s'il est possible de comprendre même les plus élémentaires voies de Dieu. Prenons cet exemple du dialogue de sourds, pas possible, entre Jésus et sa pauvre maman, Marie. Marie qui cherche son fils depuis 3 jours. Attendez, mais depuis 3 jours, il a faussé compagnie à ses parents à la fête, et Marie le questionne avec cette infinie douceur. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions très inquiets. Nous étions très inquiets, nous t'avons cherché partout. Jésus dit, pourquoi m'avez-vous cherché? Enfin, c'est à péter les plombs, cette réponse. Excusez-moi de l'expression. Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Mais c'est à péter les plombs, un enfant mineur disparu depuis 3 jours. Il m'est arrivé, il nous est arrivé avec mon épouse qu'un de nos enfants fugue. Et je peux vous dire qu'on n'emmène pas large. Et quand la police vient nous demander des photos de notre enfant, je peux vous dire qu'on n'emmène pas large, tout chrétien que nous sommes. Et alors, on s'inquiète à bon escient, il me semble. Il me semble qu'on s'inquiète à bon escient. Et Jésus lui dit, mais ne saviez-vous pas? Auriez-vous oublié que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc, pour Jésus, ça va de soi. Pour ses parents, un peu moins. Ils ne comprirent pas. Normal. Ajoutons-en encore une dernière couche avec le dialogue de Pierre et de Jésus. Sans oublier que Pierre côtoie Jésus depuis 3 ans, à peu près. On peut dire que Pierre le connaît bien. Or, en quelques minutes, Pierre est capable d'exposer la plus grande vérité sur Jésus. Tu es le Christ, enfin le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Affirmation extraordinaire. Et 5 minutes après, ou 3 minutes après, mais c'est la pire ineptie, il fâche Jésus et Jésus lui dit mais comment ça ne m'arrivera pas. Pierre lui fait des reproches, hein. Ça ne t'arrivera pas. Et c'est comme si Pierre disait finalement à Jésus, mais avec l'envergure spirituelle que tu as comme fils de Dieu, comme Messie, mais logiquement, Dieu ne va pas te laisser souffrir. Et donc, cette incompréhension dramatique des projets de Dieu déclenche la fureur de Jésus. Arrière, Satan, obstacle à mon ministère. Mais est-ce qu'on aurait fait mieux ? Après, on a toujours l'impression de faire mieux. Mais est-ce qu'on aurait fait mieux sur le moment ? Vous voyez, il y a une logique spirituelle et une logique humaine qui se télescope. C'est à se demander si nous avons la faculté de distinguer entre le plan spirituel et le plan émotionnel. Donc, de toute manière, tous les gens qui ont eu conscience de la proximité de Dieu ont été horriblement effrayés, au point de dire, mais... retire-toi, je ne suis pas digne, etc. Et en sa présence, on fait tâche, au sens propre, on est réellement entaché du péché. C'est donc peu dire que entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme, il y a une différence certaine, tout comme entre le sacré et le profane, il y a une différence certaine, d'où la présomption qu'il y aurait à penser qu'au fond, en Christ, entre guillemets, toutes ces différences deviennent très relatives et que, finalement, si on a l'Esprit de Dieu, on pense comme lui. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Dieu n'est pas notre copain. Les pensées de Dieu appartiennent à une autre sphère que les pensées humaines. Les pensées humaines sont variables, sont limitées, sont immédiates. Les pensées de Dieu sont élevé infiniment au-dessus de nos concepts, preuve en est que la toute-puissance de Dieu se manifeste par une parole qui n'est pas des mots, ce n'est pas que des mots. Il dit « et la chose advient ». Pensons à la création. « Et la chose advient ». Donc, Dieu n'est pas de la même nature que nous, il est par essence spirituel et nous sommes créatures incapables par nous-mêmes de comprendre et encore moins de réaliser la pensée de Dieu. Si Dieu révèle parfois sa pensée en live, en direct, à une personne, révélation prophétique, il nous faut rester modestes. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas fréquent et ça ne concerne pas tous les domaines. La Bible montre que les révélations sont parfois très précises pour une personne et une situation, on le voit partout, et parfois très générales pour des longues périodes. On dépend de lui pour toute parole de sagesse et pour toute parole relevant de ses pensées et de ses voies. Cette immense et inconciliable distance entre la nature divine et la nature humaine met en évidence, en relief, ce miracle extraordinaire de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a mis tous les moyens possibles et imaginables pour se révéler à nous, pour nous visiter dans un corps semblable au nôtre, sans le péché bien sûr, mais une telle révélation est insurpassable, insurpassable. Aucun schéma de la meilleure religion et de la meilleure philosophie au monde ne peut rivaliser avec l'incarnation, la vie de Jésus partagée avec nous, par amour, pour assumer notre salut. Les pensées de Dieu sont et seront toujours au-dessus des nôtres, mais il est désormais tout près de nous, ayant donné une image visible du Dieu invisible, il nous a instruits de ce qu'il concerne, malgré notre compréhension, certes limitée, et à ce titre, il nous a appelés ses amis. Ses amis, puisqu'il a conjugué en lui-même les deux natures, charnel et spirituel, et on peut dire que on peut être sûr que lui nous comprend, même si nous ne le comprenons pas toujours. Si nous croyons à ces choses, les dispositions de notre cœur font qu'il est proche de nous, au sens où nous l'avons dit tout à l'heure. En conclusion, permettez-moi d'insister sur un aspect qui n'est pas à la mode. à savoir le concept d'un Dieu qui a non seulement une personnalité, mais des sentiments. Nombreuses sont les religions ou les spiritualités qui parlent d'un Dieu et de divinités diverses, très saintes, très puissantes, inaccessibles. Ok. Mais il y a une tendance aujourd'hui plutôt occidentale et plutôt citadine qui consiste à concevoir un Dieu justement tellement au-dessus de nous qu'il en devient impersonnel. Genre de dialogue. Croyez-vous que Dieu existe ? Réponse, bien sûr, il doit bien y avoir quelqu'un ou quelque chose là-haut qui influence le monde. Ça, vous l'entendez partout. Dieu est devenu un système anonyme, auteur d'une influence plus ou moins bénéfique, mais sans relation avec quiconque. Au pire, une vague crainte ou un vague espoir d'un au-delà qui ne serait peut-être pas tout à fait le néant. Donc, évidemment, une petite affirmation, ce petit dialogue comme ça, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Mais lorsqu'on a des millions, 1,2 milliard de personnes qui pensent qu'on doit vénérer un Dieu qui exige une soumission absolue avec des règles de conduite qui font le salut, 700 millions de personnes qui croient à une foule de divinités, 400 millions de personnes qui croient à une voie d'illumination progressive et qui fait qu'on est les seuls auteurs de notre bonheur et de notre malheur, qu'il faut construire son destin. Ajoutons à cela les millions de personnes qui croient que la divinité, c'est un esprit des ancêtres, le totémisme, ou bien que c'est les esprits qui sont dans les objets, hein, l'animisme, et les millions ou les milliers de personnes autour de nous qui croient en toutes sortes de superstitions, de magies, les guides de lumière, les sorts, l'esprit des morts et toute cette salade. Alors, on se rend compte qu'avec la proximité et le mélange des populations, parce que les populations se mélangent, hein, on dit ça, on est une société pluriculturelle, bon, ok, bien sûr. Le risque de conflit insoluble créé par la proximité de plus en plus rapprochée de croyances aussi disparates crée une tension croissante et aussi une belle opportunité de partager notre espérance, mais une tension croissante et pour les autorités, une partie des autorités, il faut décréter l'équivalence de toutes ces croyances afin d'assortir et pour créer cette unité de toutes les croyances, il faut assortir cette équivalence d'une seule interdiction, celle de faire du prosélytisme. Ça suffit. D'influencer quiconque sur le plan religieux. Or, nous sommes appelés à être saints, vous serez saints, car je suis un Dieu saint, dit l'Éternel, et pour être saint, il faut se démarquer. Si on pense aux paraboles du royaume, tant celle de la perle de grand prix que celle du trésor caché dans le champ, j'insiste pas, on voit que les acteurs ont tout misé, donné une préférence absolue à un objet, et cela a déterminé leur comportement. Transposé à nous, cela signifie considérer le contenu de la révélation de Dieu dans son incarnation en Jésus comme insurpassable au sens que nous l'avons évoqué. Et cette connaissance étant alors la plus haute valeur dans notre vie à déterminer, permettant de déterminer notre comportement. Allons-nous prendre la résolution de faire allégeance chaque jour à celui en qui est attachée notre espérance? Nous allons prendre la scène dans quelques minutes, devant laquelle nous sommes invités à considérer que le Christ est sans équivalent face à tous les esprits errants, aux superstitions magiques, aux philosophies. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.
Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste auquel prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour mes frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.